Chapitre 9. Il appela effectivement le lendemain. Quand Peggy lui fit part de son acceptation, il parut soulagé. Il l'avertit qu'elle trouverait une liste de médecins dans sa boîte, avant midi. « Des lettres d'introduction y sont jointes, expliqua-t-il. N'oubliez pas de préciser que vous venez de la part du docteur Netherland chaque fois que vous prendrez rendez-vous. Ne tardez pas. Si les résultats sont bons, vous pourrez partir dans 15 jours. La somme convenue sera virée sur votre compte 1 heure avant l'embarquement. Vous aurez l'occasion de le vérifier depuis n'importe quel terminal. Je vous reverrai une seule fois pour vous faire signer le contrat d'embauche et vous remettre un portable crypté qui vous indiquera le jour, l'heure et le lieu du rendez-vous. » Peggy le remercia et raccrocha. 1 heure plus tard, elle trouva la fameuse liste dans son courrier. Elle se dépêcha d'en faire parvenir une copie à Evgeny par mail. La réponse ne se fit pas attendre. Ce sont tous des scientifiques impliqués dans un quelconque programme spatial, grogna le Russe. Cap Canaveral, Van Ness, des spécialistes des contraintes physiologiques. La plupart sont à l'origine des tests effectués sur les cosmonautes. De toute évidence, on projette de t'expédier dans les étoiles. Essaie de te montrer à la hauteur sans leur laisser soupçonner la présence des nanoparticules. Et Jacinthe a bricolé de manière à donner le change. À première vue, tu paraîtras jouir d'une forme olympique. Peggy prit ses 3 premiers rendez-vous sans attendre. Le nom du docteur Netherland fonctionnait à la manière d'une formule magique. Elle n'avait qu'à le prononcer pour voir s'ouvrir les portes les mieux verrouillées. Commença alors une période fastidieuse de voyage aux 4 coins de la Californie. Chaque matin, des billets d'avion étaient mystérieusement déposés chez elle, afin qu'elle puisse effectuer ses déplacements dans les meilleures conditions. Le scénario était toujours le même. Une ambulance l'attendait à l'aéroport, des infirmiers muets au crâne rasé la véhiculaient jusqu'au sous-sol d'une clinique étrangement déserte. Là, elle subissait des tests incompréhensibles, souvent douloureux, des explorations internes qui mettaient à mal chacun de ses orifices. On l'enfermait dans des caissons pour la soumettre à des pressions insupportables. Souvent, elle vomissait, ou bien son nez se mettait à saigner, mais elle prenait garde de ne jamais s'évanouir. C'était le seul moyen de leur prouver qu'elle était apte à voyager à travers le cosmos. Elle se heurtait à des médecins muets au sourire figé. Elle dut subir d'interminables analyses gynécologiques destinées à déterminer son potentiel de fertilité. Lors de chacune de ces intrusions, les nanoparticules se mobilisaient en secret pour fournir une réponse adaptée aux espérances des laborantins. Au fil des examens, son profil devint celui d'une jeune femme en excellente forme physique, d'une résistance à toute épreuve, dotée d'un appareil reproducteur capable de lui assurer une nombreuse descendance. La fiche d'évaluation psychologique la décrivait comme un sujet d'intelligence moyenne, dépourvu d'imagination, peu impressionnable, souple, moralement malléable et à l'appétit sexuel élevé. Peggy avait bûché chacune de ses réponses pour abonder dans ce sens. Les recruteurs ne cherchaient pas de futurs prix Nobel, mais des filles en bonne santé, un peu simplettes, appréciant le luxe, la bonne chair et les plaisirs du lit. Elle espérait avoir réussi à donner l'illusion qu'elle rentrait dans cette catégorie. Un soir, alors qu'elle revenait de l'aéroport, la Crown Victoria apparut dans son rétroviseur. Cette fois encore, il n'y avait personne au volant. Il était tard et Peggy se sentait fatiguée. Trop souvent sollicitées au cours des tests, les nanoparticules étaient rentrées en sommeil afin de reconstituer leur charge énergétique. Et ses jambes lui faisaient mal. Quand elle eut garé son véhicule au parking du condominium, elle crut un instant qu'elle était de nouveau paralysée et qu'elle ne pourrait s'arracher de son siège. Ses pieds étaient ankylosés. Et lorsqu'elle se pinçait le gras des cuisses, elle n'éprouvait aucune douleur. C'était mauvais signe. Elle s'évertua au calme et stimula certains de ses centres nerveux selon une méthode enseignée par Ijasan. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle recouvra l'usage de ses jambes et put enfin quitter le véhicule. Au moment de pénétrer dans le hall, elle regarda une dernière fois par-dessus son épaule. La Crown Victoria s'avançait sur le parking réservé aux visiteurs. Peggy décida qu'il était temps de vider l'abcès. Ce petit jeu de cache-cache commençait à l'exaspérer. Prête à l'affrontement, elle marcha droit sur les véhicules, s'attendant à ce qu'il fasse marche arrière. Elle se trompait. Il ne bougea pas. Quand elle ne fut plus qu'à 10 mètres du capot, Peggy réalisa qu'elle avait été, depuis le début, victime d'une illusion. Il y avait bien quelqu'un au volant, mais cette personne était si petite qu'on distinguait à peine le haut de son crâne. Ses yeux affleuraient le tableau de bord et ses mains enfantines tenaient le volant par le bas. « Un gosse !» songea la jeune femme éberluée. Elle ouvrit la portière à la volée, déjà prête à admodester le gamin comme il le méritait. Elle resta bouche bée. La voiture était conduite par un nain d'une 40aine d'années, presque chauve, dont la morphologie échappait à toute description. On eût dit un cube de chair, aussi haut que large, sans cou, sans épaule. Une sorte de boîte vivante, de corps compressé, qui donnait l'impression d'avoir survécu au compactage exercé par une presse hydraulique. L'intérieur de l'automobile avait été aménagé de manière que les jambes minuscules de la créature puissent accéder aux pédales. Tout l'habitacle était en titane, comme si l'on avait tenté de transformer la Crown Victoria en char d'assaut banalisé. Le nain était vêtu d'une combinaison rouge, rappelant celle des pilotes de jets stratosphériques. « Ne me touchez pas !» lança-t-il lorsque Peggy fit mine de s'asseoir à ses côtés. « Pour votre sécurité, ne portez pas la main sur moi. »« Je n'ai pas l'intention de vous frapper !» protesta la jeune femme. « Il ne s'agit pas de ça !» siffla l'étrange petit homme d'un ton agacé. « C'est vous qui êtes en danger. Si votre peau entre en contact avec la mienne, vous serez aspiré. »«
Aspiré ?
Oui, je suis un trou noir vivant. Ma densité a été altérée. Elle s'effondre sur elle-même comme une étoile qui meurt, aspirant tout organisme passant à sa portée. Si vous posiez la main sur moi, j'aspirerais les molécules qui vous composent pour m'en nourrir. Je n'y puis rien. Je ne contrôle pas le phénomène. Je ne dois rien toucher de vivant. Tout ce qui est synthétique minéral échappe à ma gloutonnerie. » Peggy s'assit prudemment sur le siège du passager. La banquette arrière était occupée par un appareil compliqué qui bourdonnait faiblement. Ainsi équipée, la voiture avait tout d'une navette spatiale en réduction. Elle se demanda si elle avait affaire à un fou. « Pourquoi me suivez-vous ? » s'enquit-elle. « Je me nomme Gordon Vaughan, » fit le nain. « J'ai 36 ans. J'étais capitaine dans l'US Air Force. Je suis astronaute. Il y a 10 ans, on m'a recruté pour participer au projet E.T. »«
E.T. Vous déconnez. » »«
Non, ça signifie Earth 2. Je suppose que c'est de l'humour de scientifique. Voilà ce que je suis devenu. Vous n'êtes pas forcé de me croire, bien sûr. » »«
Il y a 3 semaines, je vous ai aperçu chez Ornella. Vous lui ressembliez alors. » Je vous ai même prise pour elle l'espace d'un instant. Vous avez interrogé sa voisine, feuilleté dans ses papiers. J'ai cru que vous étiez sa sœur jumelle. Quand vous êtes partie, je vous ai prise en filature.
Vous connaissez Ornella Jones ? S'étonna Peggy.
Oui, j'étais amoureux d'elle, fit la créature en détournant les yeux. Je sais que ça a l'air ridicule dans ma bouche, mais je n'ai pas toujours eu cette tête-là. Je l'ai aidée à s'enfuir. Ça a mal tourné, comme vous le savez. Je ne sais pas qui vous êtes exactement, mais de toute évidence, vous enquêtez sur eux. Vous n'êtes pas normal, vous non plus. Ces dernières semaines, vous avez changé d'identité, de visage, de corpulence. Vous êtes devenue une autre femme. Je ne suis pas complètement niais. Il y a des rumeurs, vous savez, à propos d'un service fantôme, le Destroy. « Que me voulez-vous ?» coupa la jeune femme. « En quoi puis-je vous être utile ?» Le nain laissa échapper un ricanement douloureux. « Vous ne pouvez plus rien pour moi, ma jolie » s'esclaffa-t-il. « Il est trop tard pour effectuer des réparations. Je suis foutu. Je vous l'ai dit, je vais imploser. Je suis en train de m'aspirer moi-même. Quand le processus sera achevé, je ne serai plus qu'une infime particule d'une densité effroyable. Imaginez une tête d'épingle pesant autant qu'un paquebot. Vous voyez le genre. Il y a 10 ans, je mesurais 1,83 m et je pesais 75 kg. Aujourd'hui, je mesure 1,02 m et je pèse 660 kg. Si cette voiture ne possédait pas un châssis en titane, elle s'effondrerait sous mes fesses. Mais comment avez-vous pu autant grossir ? Demanda Peggy. En aspirant tous les organismes vivants qui passent à ma portée, murmura Gordon. Il me suffit de les toucher, intentionnellement ou par mégarde. J'aspire tout ce qui est organique, même le cuir des fauteuils. Cela se fait en un clin d'œil. Je ne peux pas résister au besoin de le faire. Cela me permet de durer. En nourrissant le trou noir que je suis devenu, je prolonge mon existence de quelques jours. Je m'accorde un répit. Peggy se rétracta sur son siège. Elle commençait à penser que l'horrible petit bonhomme disait la vérité. « Vous comprenez pourquoi il n'y a jamais rien eu entre Ornella et moi » siffla-t-il. « Si je l'avais touchée, elle se serait dissoute pour disparaître en moi. Elle serait allée nourrir le trou noir. » C'est en partie à ça que servent les filles qu'on envoie là-haut. Les types comme moi les mangent. Peggy examina l'homme cube ratatiné derrière le volant. Son aspect, par trop fantastique, écartait d'emblée l'éventualité d'un bobard, d'une mise en scène. Le picotement de la peur lui agaça la nuque. « Mais pourquoi ? » insista-t-elle. « Qui êtes-vous, réellement ?» « Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, » fit Gordon en crispant sur le volant ses petites mains enfantines. « Pour simplifier, disons qu'ils essaient de fabriquer des pilotes capables de voyager dans l'hyperespace, des types en mesure de voyager pendant des millénaires et d'explorer les galaxies sans qu'il soit besoin de les cryogéniser. Des cosmonautes immortels ?»« Oui, ou presque. La cryogénisation est un mythe. Un truc pour film de science-fiction. Elle ne fonctionne pas, trop aléatoire. Le taux d'échec s'est révélé énorme. Chaque fois qu'on a tenté de réveiller le sujet après un sommeil de 10 ou 15 ans, soit il était aussi mort qu'un bloc de colin surgelé, soit il était devenu amnésique et idiot. Ce sont de sérieux handicaps quand on doit piloter un vaisseau spatial à travers les galaxies. Il s'agit donc réellement d'un programme d'exploration spatiale ? Oui, un programme énorme et secret, terriblement ambitieux, disposant de capitaux illimités. Tout se déroule dans un laboratoire orbital furtif qu'aucun radar ne peut détecter. Une station invisible, fantomatique, équipée de brouilleurs. Il n'y a pas un télescope sur la Terre qui soit actuellement en mesure de la repérer. Je faisais partie du corps des pilotes. Les types de la section biologie quantique ont trafiqué notre organisme pour faire de nous des astronautes capables de voyager sur des distances énormes en restant affranchis des lois communément admises. Mais cela a affecté notre densité. Vous comprenez, certaines planètes sont si éloignées de la Terre qu'il faut parfois 3 siècles pour les atteindre. Ils ont résolu le problème de la propulsion, mais celui du pilote subsistait. Pas question de s'en remettre aux ordinateurs. Le but de l'opération Earth-2, c'est de permettre à la race humaine d'émigrer sur une nouvelle planète quand la nôtre sera devenue totalement invivable. On m'a raconté que je deviendrais le pilote d'un nouveau Mayflower, le capitaine d'un vaisseau des migrants. Il se tut. Depuis une minute, Peggy éprouvait une étrange sensation d'aspiration, comme si une force invisible la poussait à se jeter dans les bras de Gordon. Elle se recula de quelques centimètres le dos contre la portière. « Oh ! » fit le nain. « Ça commence, hein ? Vous la sentez aussi ? C'est le trou noir. Il a repéré votre présence. Il espère vous satelliser, puis, une fois que vous serez entré en orbite, vous aspirez purement et simplement. Il a faim d'énergie, il doit se nourrir. Votre poids s'ajoutera alors à celui de tous ceux que j'ai déjà avalés. Je ne peux plus côtoyer les humains sans leur porter préjudice. Là-haut, ils s'en fichaient. Ils nous livraient des filles en pâture. Je fais partie de la première génération des pilotes intergalactiques. J'ai essuyé les plâtres, comme on dit. En nous étudiant, ils espèrent améliorer le modèle. Nous leur servons de cobayes. Vous vous êtes enfui ? Oui. Ils ne pouvaient pas me retenir de force. Ils avaient peur de moi. Il aurait suffi que je pose le doigt sur eux pour les aspirer. J'ai aidé Ornella à ficher le camp. Peggy sentait son cerveau s'engourdir. Le vertige la gagnait. Elle comprit que si elle s'attardait à proximité de Gordon, elle ne tarderait pas à s'abandonner. « Vous faiblissez, » constata le nain. « Vous devez vous éloigner de moi. Je voulais simplement vous avertir de ce qui se trame là-haut. Soyez sur vos gardes. Ils mentent. Ne les croyez jamais. Si vous pouvez leur faire du mal, n'hésitez pas. Ils ont déjà des milliers de victimes sur la conscience. Il faut détruire la station, mettre un terme à cette aberration. Je crois qu'ils sont devenus fous, qu'ils ne contrôlent plus rien. Ils ont été dépassés par leur création. » Peggy hocha la tête. Elle aurait souhaité en apprendre davantage. « Ils sont très puissants, » ajouta Gordon. « Si ma densité n'avait pas été affectée, j'aurais pu devenir immortelle. Leurs travaux dépassent l'entendement. Ils tenteront de vous séduire en vous faisant miroiter des merveilles. C'est comme ça qu'ils ont eu Ornella. Elle s'imaginait déjà dans le rôle de la nouvelle Ève. Le réveil a été plutôt rude. À présent, fichez le camp. Vite. Vous êtes en train de céder à l'attraction. » Vous allez vous rapprocher de moi centimètre par centimètre. Ouvrez cette portière, bordel. Si je bouge, je risque de vous toucher. Vous devez vous débrouiller toute seule. » Peggy savait qu'il avait raison. Si elle ne bougeait pas, elle était perdue. L'engourdissement la gagnait, le vertige également. Elle n'aspirait plus qu'à se blottir dans les bras du nain pour se dissoudre en lui, le laisser l'aspirer, devenir un déluge d'atomes tourbillonnants, ajouter sa modeste contribution à la spirale des précédentes victimes. « Fous le camp !» hurla Gordon, son affreux visage cubique crispé par la colère. Cette fois, Peggy eut le réflexe de tourner la poignée et de se rejeter en arrière. La portière s'ouvrit, la jeune femme roula sur l'asphalte du parking. La Crown Victoria démarra aussitôt, l'abandonnant là les omoplates meurtries. Elle se redressa avec peine et tituba vers le hall. Dans l'ascenseur, elle crut qu'elle allait succomber à une hémiplégie. La moitié de son visage était devenue insensible et elle ne voyait presque plus rien de l'œil droit. Elle faillit trébucher sur le chat de la voisine qui errait encore dans le couloir. Elle ouvrit sa porte en tâtonnant avant de s'effondrer sur la moquette, évanouie. Quand elle reprit ses esprits une heure plus tard, son premier réflexe fut d'appeler Evgeny pour lui rapporter les propos du nain. « Ça devient de plus en plus intéressant, » fit le russe. « Je pense que ce petit voyage dans les étoiles pourrait s'avérer très fructueux. À condition que tu te débrouilles pour en revenir, bien sûr. » Au moment où elle raccrochait, Peggy s'aperçut que la porte du palier était demeurée entrouverte. Le chat l'avait suivi. Installé sur le canapé, il la fixait de ses yeux bleus. Un siamois, songea la jeune femme, mais quand elle esquissa une caresse, l'animal feula avec colère et s'enfuit.